Je dois avouer que je ne discerne pas bien pourquoi quelqu'un se joindrait à la secte des adorateurs de l'oignon. Il y a quelque chose qui m'échappe. Par contre, il n'y a pas besoin d'être supra-intelligent pour comprendre l'intérêt à suivre Moïse David, le fondateur des Enfants de Dieu. Dans les communes qu'il créait, on partageait tout. J'ai bien dit tout. Je laisse à votre imagination le soin de compléter. Je continue à lire dans le deuxième chapitre de la seconde épître de Pierre. Beaucoup de gens suivront les enseignants de mensonges dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Verset 2. Ce qui est tragique concernant les imposteurs spirituels est qu'ils ont du succès. Les gens les écoutent et les suivent. Jésus a bien dit que ceux qui emprunteront le chemin spacieux qui mène à la perdition seront plus nombreux que ceux qui suivront le chemin étroit qui mène à la vie. Dans une large mesure, c'est aux enseignants de mensonges, qu'ils soient religieux, philosophes ou scientifiques, que nous devons de voir les gens opter pour le chemin spacieux, puisqu'ils les incitent à l'emprunter sans trop réfléchir. Leur message d'indépendance, de liberté personnelle et d'exaltation de soi est attrayant pour le cœur humain dépravé qui préfère servir ses propres intérêts plutôt que le Seigneur. D'un autre côté, les sectes et les imposteurs religieux rendent un service à la véritable Église de Jésus-Christ, car comme un aimant, ils attirent les hypocrites, ceux qui n'ont pas en eux l'amour de la vérité et qui aiment le mensonge et le péché sous une forme ou sous une autre. De plus, pratiquement toutes les sectes issues du christianisme ont débuté à l'intérieur même de l'Église par quelqu'un ou un groupe de gens qui avaient un rôle pastoral. Mais comme le dit l'apôtre Paul, il faut bien qu'il y ait parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Cependant, le véritable enfant de Dieu ne suivra pas cette déviation doctrinale. Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Une fois que quelqu'un adhère aux fausses idées d'un enseignant de mensonge, il le suivra aussi dans ses pratiques dégénérées. Le mot que Pierre emploie pour « immoralité » désigne toutes sortes de pratiques sexuelles immorales. Pierre l'a déjà utilisé plusieurs fois. L'apôtre Paul et Jude l'emploient également. En fait, c'est un mot très fort qui décrit une conduite décadente au point où Jude la compare aux pratiques de Sodome et Gomorre, les villes maudites que Dieu a détruites et qui reposent au fond de la mer morte. L'expression « la voie de la vérité » veut dire « la saine doctrine et la proclamation juste de la bonne nouvelle en Jésus-Christ ». Mais à cause des imposteurs religieux de tout poil qui répandent le mensonge, le véritable christianisme est blasphémé, vilipendé, maudit et condamné par les gens du dehors qui voient dans ceux qui se disent croyants des personnes s'adonner à toutes sortes d'excès qui vont du libertinage au légalisme le plus strict accompagné de l'attitude hautaine « je suis mieux » est meilleur que toi. Il n'est donc pas étonnant que le message de la vérité soit si mal perçu et rejeté par les gens du dehors et que Monsieur Tout-le-Monde se dit « si c'est ça le christianisme, je n'en veux pas ». Par leur enseignement trompeur et leur conduite immorale, les imposteurs religieux se comportent en vrais émissaires de Satan en diffamant le nom du Christ. D'une part, ils minent l'Église de l'intérieur en y introduisant de faux enseignements et des comportements infâmes, et d'autre part, ils ternissent la réputation des véritables croyants qui se voient assimilés à ceux qui commettent des excès. Selon l'enseignement de l'apôtre Paul, les croyants doivent être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse dans laquelle ils brillent comme des flambeaux dans le monde. Je continue le texte de Pierre. Par amour de l'argent, les enseignants de mensonges vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Verset 3. La principale motivation des imposteurs religieux n'est pas une fascination pour la fausse doctrine ou même une pulsion incontrôlée pour le sexe, mais un amour obsessionnel pour le fric. Le mot qui est rendu par « amour de l'argent » signifie un désir incontrôlé à faire de l'argent et à s'enrichir. Plus loin dans le chapitre, Pierre utilise ce même mot pour décrire ses faux enseignants comme ayant le cœur exercé à la cupidité. Ces charlatans religieux sont passés maîtres dans l'art de flouer et filouter et déposséder les croyants des assemblées chrétiennes. Il ne faut pas les confondre avec les gueux assis à l'entrée des églises traditionnelles qui font la manche en implorant votre pitié. À cela, il faut donner une pièce, peu importe ce qu'ils en font, et Dieu vous la rendra. Les enseignants de mensonges n'ont pas le bien-être de leurs auditeurs en vue. Ils n'essayent pas de vous apporter un plus en vous aidant dans votre vie spirituelle. Ce sont des sangsues qui cherchent à vous utiliser pour leurs propres bénéfices, à soutirer quelque chose de vous et en particulier du pognon. Pour arriver à leur fin, à se remplir les poches, Pierre dit qu'ils exploiteront les bonnes gens au moyen de paroles trompeuses. Le verbe « exploiteront » signifie « trafiquer », « commercialiser », « acheter », « vendre », « faire du commerce ». De tels hommes cherchent à s'enrichir sur le dos de leurs victimes par des paroles trompeuses avec des histoires de leur propre invention. Cette expression est un seul mot en grec et a donné le mot « plastique » en français. À l'origine, ce mot signifiait quelque chose qui n'est pas authentique, du toc en somme. C'est bien comme ça qu'on voit encore le plastique aujourd'hui, quelque chose d'artificiel. Vous allez dans n'importe quel magasin et qu'est-ce que vous trouvez qui est fabriqué en bois ou en métal? Pas grand-chose parce que tout est en plastique. Les jouets, la carrosserie de la voiture, la carafe d'eau, la bassine, la pelle, la balayette, les assiettes et même les couteaux. C'est fou! On fait tout en plastique parce que c'est un matériau peu onéreux qui peut être moulé en toutes les formes possibles et imaginables. Et puis, on peut peindre le plastique pour lui donner l'apparence de l'article originel qui était dans une matière noble. À première vue, le plastique trompe le consommateur. Il faut le prendre, le toucher et le soupeser pour savoir que c'est du toc, car il est plus léger que le métal ou même que le bois. De manière comparable au plastique, l'enseignement des imposteurs religieux est faux. Leur théologie est fondée sur de faux raisonnements, dans le seul but de leur donner une apparence d'authenticité afin de pouvoir exploiter les personnes dépourvues de discernement spirituel. Dans la chrétienté, il existe beaucoup de prédicateurs plastiques qui ont toutes les apparences du vrai, mais qui sont faux. Pour Pâques, par exemple, ils n'ont aucun problème à parler de la résurrection de Jésus et ils emploient les mêmes mots que le Nouveau Testament. Mais que veulent-ils dire? Pour eux, Jésus est-il ressuscité après être véritablement mort et avec un vrai corps ou bien évoque-t-il une mort en apparence seulement et un corps qui n'en est pas vraiment un? Ces prédicateurs moulent leur message afin qu'il ait un air d'authenticité alors qu'en réalité, c'est du plastique. Ces imposteurs sont aussi de fins psychologues qui savent sentir ce que leur auditoire désire entendre. En bon caméléon, ils vont se métamorphoser pour l'occasion et endosser l'habit de carnaval qui convient à la demande, histoire d'empocher la recette de la soirée. Judas a passé 3 ans et demi avec le Seigneur et au bout du compte, il l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Ça n'a aucun sens et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé. Et une fois en possession de son sale fric, il n'en a pas profité du tout puisqu'il s'est pendu. Ça n'a aucun sens et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Dans nos sociétés occidentales, le fric règne en maître incontesté. On méprise celui qui est accroché à la drogue ou l'alcool, mais quelqu'un qui a les doigts crochus, on le respecte. Une très vieille chanson dit « Pour ce petit bout de papier qui peut tout acheter, je ferai n'importe quoi pour avoir quelques billets. » Oui, c'est vrai. Un jour, un homme dont la conduite était impeccable et qui était droit comme un « i » a demandé à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui a répondu « Il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel, puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je continue le texte de Pierre. Mais il y a longtemps que la condamnation menace les enseignants de mensonges et leur perdition n'est pas en sommeil. Verset 3. L'expression « il y a longtemps » est un seul mot qui signifie « depuis une époque ancienne ». Depuis la première sentence de jugement prononcée contre le serpent dans le jardin d'Éden, Dieu a condamné tous ceux qui déformaient la vérité. L'affirmation « leur perdition n'est pas en sommeil » personnifie la condamnation à venir comme s'il s'agissait d'un bourreau qui reste bien éveillé, prêt à exécuter la juste sentence de Dieu contre ceux qui altèrent sa parole. En tant que Dieu de la vérité, le Seigneur s'oppose à tous les imposteurs religieux et à toute forme de mensonge. Le prophète Ézéchiel dit « Le Seigneur l'Éternel parle ainsi. Parce que vous prêchez des illusions et que vous avez eu des visions mensongères, je m'en prendrai à vous. Voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire peser ma main sur les prophètes qui ont des révélations fausses et qui prononcent des oracles trompeurs. Ils ne siégeront pas au conseil de mon peuple, ni ne seront inscrits sur la liste des membres de la communauté israélite. Ils ne rentreront pas au pays d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis, moi, le Seigneur, l'Éternel. » La justice de Dieu ne dort jamais et n'est jamais en retard. C'est du moins la version divine de la réalité. De notre point de vue, ou tout au moins du mien, je trouve que Dieu laisse passer beaucoup trop d'injustices sans réagir. Je ne suis pas seul à penser ainsi. Le psalmiste écrit « J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. » Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains, aussi s'ornent-ils d'arrogance, comme on porte un collier, et la violence est leur parure, leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse, les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure, ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain menacent d'opprimer, leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il ? Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu » et où j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine, et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit, comme les images du rêve s'évanouissent. Après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. » Fin de citation. Il n'est guère possible de traverser cette vie sans souffrir de l'injustice et de la cruauté humaine. Cependant, l'exhortation des Écritures est de ne pas faire justice soi-même. L'apôtre Paul écrit « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû ». Le croyant est donc tenu d'obéir au Seigneur et de le laisser agir, car c'est à lui de régler les comptes. Je sais très bien que c'est facile à dire et beaucoup moins à mettre en pratique, surtout s'il s'agit d'offenses graves et malheureusement, elles ne manquent pas. Bon, d'accord, j'ai acheté une bagnole et je me suis fait avoir car l'ancien propriétaire avait bouché un trou du pot d'échappement avec de la choucroute. Mais c'est pas la mer à boire, surtout si on accepte d'avance que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, 5 à 10% de mes revenus iront à des escrocs. C'est comme ça et on n'a plus qu'à nommer cette dépense l'impôt du truand. Au soir de sa vie et dans sa dernière lettre, Paul écrit à son disciple Timothée « Alexandre, l'orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce qui lui auront valu ses actes. » Fin de citation. En fait, il aurait été préférable pour cet Alexandre que ce soit Paul et non pas Dieu qui lui rende la monnaie de sa pièce pour le mal qu'il avait fait. À partir d'ici, Pierre donne plusieurs illustrations pour montrer que Dieu ne plaisante pas avec les mécréants. Il va rappeler au destinataire de sa lettre 3 récits bien connus du jugement divin tirés du livre de la Genèse. Il va souligner la hauteur de la colère de Dieu dans le cas des anges déchus, la largeur de sa colère dans le cas du monde antédiluvien et la profondeur de la colère de Dieu dans le cas de Sodome et de Gomorre. Autrement dit, il n'existe pas de créature trop noble, trop nombreuse ou trop vile pour échapper au châtiment divin. La vengeance de Dieu frappera tous ceux qui s'opposent à lui. Si Pierre se sent obligé de faire ces rappels, c'est probablement parce qu'il sait d'avance que certains de ses lecteurs viendront à douter que les faux enseignants subiront le châtiment de Dieu. Après tout, tandis qu'ils propageront leurs mensonges en toute impunité, ils s'épanouiront. Non seulement ils jouiront de la notoriété publique, mais ils se rempliront les poches et les femmes seront pendues à leur cou. Pierre veut donc remettre les pendules à l'heure en rappelant la version divine de l'histoire. Si Dieu n'a pas manqué de juger avec sévérité dans le passé, il fera de même dans le présent et dans l'avenir. Je continue le texte. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Verset 4. Ces anges qui ont été précipités dans l'abîme sont appelés fils de Dieu dans la Genèse. Leur faute a été de prendre une forme humaine et de s'unir avec des femmes humaines. En violant les limites que Dieu leur avait imposées, ces anges, devenus démons, sont allés trop loin dans leur rébellion. Jude compare leur acte à la débauche des habitants de Sodome et de Gomorre, qui se sont livrés comme eux à des actes sexuels contre nature. Ces démons furent jugés sur le champ et emprisonnés dans un endroit appelé Tartare. Pierre utilise un mot qu'il emprunte à la mythologie grecque et qui désigne un abîme souterrain encore plus bas que le séjour des morts. C'est vraiment le fond du trou et la plus terrible des oubliettes. Dans cette prison sont enfermés les esprits les plus méchants, les pires des rebelles et des criminels qui recevront le châtiment divin le plus sévère. Pierre ne précise pas ce qu'est Tartare parce que ses lecteurs le savent très bien. En effet, ce lieu maudit n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, mais il est mentionné dans le livre apocryphe appelé Énoch que tous les Juifs connaissaient. Ces mauvais esprits sont actuellement enchaînés, c'est-à-dire privés de toute liberté, le sort que redoutent le plus les démons qui jouissent encore d'une certaine indépendance et qui, dans une large mesure, ont les coudées franches pour faire le mal. L'apôtre Paul les mentionne quand il écrit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Et dans sa première épître, Pierre compare Satan à un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Par contre, ceux qui sont incarcérés dans les ténèbres de Tartare ne font jamais parler d'eux car ils ont déjà été jugés et attendent seulement que la peine finale soit prononcée et exécutée. L'illustration de Pierre a pour but de rappeler que Dieu châtie sévèrement ceux qui s'opposent à lui et à sa vérité. À l'instar de ses anges, les faux enseignants rebelles devront faire face à sa colère.